vous invite à la prière. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que tu nous conduis, tu es présent à nos côtés, à chaque saison de notre vie, à chaque journée. Nous te demandons encore de nous aider à marcher avec toi, à te suivre, à t'écouter, et que ces textes que nous allons lire encore ce matin puissent nous parler par ta voix, ton esprit, que la préparation de Noël avec les enfants puisse être aussi un lieu d'apprentissage de ce que tu fais jour après jour pour nous. Bénis chacun de nous, ici ou en face avec les enfants. Merci parce que ta parole est vivante et nous pouvons nous mettre à ton écoute. Amen. Quel bruit aimez-vous ? Quel bruit aimez-vous ? En début de semaine, de lundi à mercredi, je me suis rendu avec Aude en région parisienne, à la pastorale nationale de notre union d'église. Nous étions une quarantaine de pasteurs réunis. Alors l'objectif de cette pastorale était d'abord de nous retrouver pour vivre la communion, hein, on est dispersés partout en France, de Strasbourg à Orthez, d'est en ouest, du nord au sud, et donc se retrouver au moins une fois par an, c'est bien, c'est bon pour les échanges, pour la communion, pour se connaître, pour travailler ensemble. Et souvent, on travaille à distance. Nous nous retrouvons aussi pour discuter de la vie de nos églises, donner des nouvelles, des commissions, et prier les uns pour les autres. Et à chaque pastoral, nous abordons un thème. Et le thème de cette année s'articulait autour des bruits qui nous environnent. Les bruits qui nous environnent. Nous constatons que le monde d'aujourd'hui est particulièrement anxiogène. Et cela a beaucoup de conséquences dans nos églises, finalement. Lorsque nous allumons la télé ou la radio, nous n'entendons quasiment que des mauvaises nouvelles. Alors, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On le dit depuis des années, des décennies. Mais les statistiques montrent que c'est plus intense encore à notre époque. Le nombre de dépressions est particulièrement élevé chez les jeunes, mais pas seulement chez les jeunes, cela touche toutes les tranches d'âge. Nos contemporains sont inquiets. Pourquoi sont-ils inquiets ? C'est souvent à cause des bruits qui nous environnent, les infos, les discours qui annoncent des catastrophes à venir. Et en tant que pasteur, nous voulions échanger autour de ce thème, pour savoir comment nous le vivons et comment prendre cela en compte dans la pratique pastorale. Lors de l'introduction de ce thème, lundi soir, nous étions en petit groupe de discussion et notre collègue Vincent Miéville a posé une première question d'introduction. Quel bruit aimons-nous entendre et pourquoi ? Pour ma part, il y a beaucoup de sons que j'aime entendre, mais j'ai dû en choisir un. J'ai répondu que j'aime entendre le rire de mes enfants. J'aime les entendre rire parce que cela évoque la vie, des moments de joie, des moments partagés en famille. Alors la deuxième question, vous le devinez certainement, était la suivante. Quels sont les bruits que vous ne supportez pas ? Et j'ai répondu, les cris de mes enfants, lorsqu'ils se chamaillent ou lorsqu'ils râlent. Ces bruits me dérangent beaucoup, parce qu'ils sont fatigants et ils arrivent souvent dans des moments où je suis déjà épuisé. Finalement, ce ne sont pas tant les bruits qui nous réjouissent ou nous repoussent, c'est ce qu'ils évoquent. Si de nombreuses personnes dépriment à cause des bruits qui nous environnent, à cause des infos alarmantes, des discours apocalyptiques, c'est notamment à cause du désespoir. On entend que tout va mal, et que la société va s'effondrer. Quel avenir espérer dans un tel monde ? Quel avenir si l'on pense que notre vie s'arrête au moment de la mort ? Quel avenir si l'on pense que la fin du monde sera la fin de tout? Quel avenir si l'on pense que nos petites actions ne pourront rien changer à l'écroulement du monde? Du temps de Jésus, ses disciples se posaient des questions similaires déjà. L'Empire romain dominait sur Israël, les Juifs se sentaient humiliés, ils n'avaient pas de leader pour libérer le peuple de cette oppression, ils attendaient un Messie, un sauveur politique, mais ils n'étaient pas d'accord sur la manière de vivre la foi en attendant ce Messie. Il y avait beaucoup de divisions entre les partis religieux. À chaque fois qu'un révolutionnaire prenait un peu de place, Rome n'hésitait pas à le mettre hors d'état de nuire pour éviter les débordements. Le sujet de la fin des temps était déjà très présent en ce temps-là. Je vous invite à lire un texte qui aborde ces questions et qui sonne très actuel, encore plus aujourd'hui et encore plus cette semaine. Il s'agit du premier texte que nous avons lu en pastoral dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, versets 1 à 14. Matthieu 24, 1 à 14. Jésus sortit du temple et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Vous voyez tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. » Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, « C'est moi qui suis le Messie. » Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura, en divers endroits, des famines, des pestes, des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Tout commence par une réflexion des disciples sur la construction du temple. Jésus rebondit sur cette remarque et il évoque un sujet anxiogène. Il évoque la destruction de ce temple. Jésus va toujours là où on ne l'attend pas. Il annonce que le temple sera détruit et les disciples font le lien avec la fin du monde. S'ils font ce lien, c'est parce que le temple symbolisait la présence de Dieu sur terre. Le temple était aussi le signe que Dieu soutenait Israël. Ce bâtiment sacré était le centre géographique de leur foi. Si le temple venait à être détruit, cela signifierait que Dieu n'est plus avec le peuple, et donc que Dieu juge le peuple. Et le jugement de Dieu est lié à la fin des temps. Pour toutes ces raisons, lorsque Jésus parle de la fin du temple, de la destruction du temple, ses auditeurs font tout de suite le lien avec le jugement de Dieu à la fin du monde. Les disciples demandent à Jésus quand cela arrivera et quels en seront les signes. C'est mon premier point, les signes de la fin des temps. Jésus fait alors la liste de tous les signes de la fin des temps. Et à chaque fois que je lis ce texte, je suis frappé par l'actualité de ses paroles. Jésus mentionne les faux prophètes, autrement dit les fake news. ceux qui annoncent des mensonges, ceux qui annoncent un avenir ou des croyances infondées. Ensuite, il mentionne les guerres et les menaces de guerre, les famines, les pestes, autrement dit, les épidémies, les tremblements de terre, les catastrophes naturelles, les persécutions de chrétiens, comme cela est le cas de nos jours dans beaucoup de pays du monde. Il évoque aussi la méchanceté, la trahison, la haine les uns contre les autres. Autrement dit, il annonce la radicalisation, tout prétexte pour se haïr, l'âge, la culture, les origines ou les opinions. Et il annonce aussi la progression du mal et la diminution de l'amour. Cette liste, comme je l'ai dit, est frappante par son actualité. Au milieu de tous ces malheurs, Jésus ajoute au verset 13 « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Que veut-il dire par « persévérer » ? Le verbe grec signifie « tenir ferme », »,« ne pas renoncer », »,« rester fidèle ». Jésus parle de ceux qui ne renoncent pas à l'amour, ceux qui restent fidèles dans la foi. Dans la liste des malheurs que Jésus décrit, il y a des événements que nous subissons et nous ne pouvons pas y faire grand-chose. Par exemple, les épidémies ou les tremblements de terre. À mon niveau, je ne peux rien faire pour les empêcher. Il y a d'autres événements qui découlent de choix humains. Mais à notre échelle, nous restons impuissants. Par exemple, les guerres. Ce sont des choix que font des dirigeants humains. Mais à notre niveau, notre champ d'action est très très limité. Au milieu de tout cela, Jésus nous demande quelque chose qui est de la responsabilité de chacun. Ce n'est pas évident, mais c'est accessible à tous. Il nous demande de ne pas renoncer à l'amour et de tenir ferme dans la foi. J'aime beaucoup ce texte, non parce qu'il parle des catastrophes de ce monde, mais parce que Jésus a bien conscience que nous vivons dans un monde qui souffre, un monde où le mal règne. Beaucoup de personnes ne veulent pas croire en Dieu, car ils disent que si Dieu existait, il n'y aurait pas de catastrophe naturelle, il n'y aurait pas de guerre. Jésus ici ne nie pas la réalité. Il affirme bien que ce monde va mal, et il est en train de s'effondrer. Et il dit « tenez ferme », il dit « persévérez ». J'aime beaucoup ce jeu de mots en français, où dans le verbe « persévérer », on entend « percer » et « verrez ». Percez et vous verrez. Percez à travers le mur, percez à travers les difficultés, et vous verrez. La promesse, c'est qu'au bout, il y a le salut. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le salut, c'est de vivre sur une nouvelle terre où Dieu règnera éternellement et entièrement. Ce n'est pas un monde hypothétique où, si Dieu existe, il n'y aura plus de souffrance. C'est un monde renouvelé où Dieu règnera. Et comme il règnera, il n'y aura plus de souffrance. Jésus va encore plus loin. Quelques versets suivants, au chapitre 25, il dit ceci. Je vous invite à lire notre deuxième texte, chapitre 25, versets 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, Quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger? Ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli? Ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un des plus petits, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et nous ne t'avons-nous pas servi? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Ce texte se trouve dans la continuité du précédent. Alors, je n'ai pas tout lu ce qu'il y a entre, mais c'est dans la continuité. Jésus fait un zoom sur le fameux jugement de la fin des temps. C'est mon deuxième point, le jugement de la fin des temps. Après les signes de la fin des temps, Jésus parle du jugement de la fin des temps. Il parle du jugement en utilisant des images avec des brebis et des boucs. Jésus parle du Fils de l'homme pour parler de lui-même. À sa droite, les brebis entreront dans le royaume de Dieu. Et il ajoute que ce royaume a été préparé pour eux dès la création du monde. Qu'est-ce que les brebis ont fait pour avoir accès à ce royaume? Jésus dit qu'ils lui ont donné à manger alors qu'il avait faim, qu'ils l'ont habillé alors qu'il était nu, qu'ils l'ont visité alors qu'il était malade, etc. Les brebis poseront alors la question, quand avons-nous fait tout cela? Et Jésus répond, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Si nous lisons rapidement ce texte, nous pourrions en conclure que Jésus enseigne un salut par les œuvres. Nous pourrions nous dire que pour être sauvé, il faut faire le bien autour de nous et voir en chaque personne le Christ que nous sommes appelés à servir. Et il y a du vrai dans cela. Et cela bouscule aussi, nous, notre théologie protestante. Mais dans son discours, Jésus ne dit pas seulement que les brebis méritent le royaume parce qu'ils ont bien agi. Regardons bien ce que dit le texte exactement. Jésus met en scène des brebis qui ne savent pas qu'elles agissent bien envers Jésus. Elles sont elles-mêmes étonnées et surprises par les paroles de Jésus. La clé de la compréhension du texte, à mon avis, se trouve dans la surprise des protagonistes. Ils sont surpris que Jésus les récompense d'avoir bien agi envers lui. Et c'est là où je veux en venir. Pour les brebis, les bonnes œuvres étaient un mode de vie naturel. Un mode de vie naturel. C'est au point où lorsque Jésus leur dit qu'elles ont bien agi, elles sont étonnées. Leurs œuvres étaient la conséquence de leur cœur. Leurs œuvres étaient la conséquence de leur foi. Ces brebis ont tenu ferme dans l'amour. Elles ont persévéré dans la foi. Quant aux boucs, eux aussi sont étonnés des paroles de Jésus. Ils demandent, Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas servi? Ces boucs sont étonnés car ils pensent avoir accompli ce qu'il fallait pour être en règle. Mais le Fils de l'homme leur dira : Éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Alors j'arrive à la conclusion. Et en conclusion, j'aimerais souligner le lien fort entre les deux textes que nous avons lus. Le premier texte évoque les bruits de ce monde, les bruits inquiétants, les informations anxiogènes, les catastrophes et le mal qui se répand. Face à tous ces bruits, il y a de quoi être inquiet ou même en colère contre Dieu. Il y a de quoi sombrer dans le désespoir. Mais au milieu de ces bruits, Jésus nous fait entendre un autre son de cloche. Il annonce le salut pour celui qui perce à travers les difficultés avec foi. Et celui-ci verra. Il nous dit : persévérez, ne renoncez pas à l'amour et tenez ferme dans la foi. Le deuxième discours de Jésus illustre ce que signifie justement persévérer dans la foi, dans l'amour et dans la foi. Celui qui est en communion avec Jésus aime ce que Dieu aime et voit comme Dieu voit. La foi en Jésus devrait nous inciter à voir Jésus en chaque être humain. La foi devrait nous inciter à marcher sur les pas du Christ qui a dit « Je suis venu, non pas pour être servi, mais pour servir ». Jésus réoriente notre regard. Au lieu de voir ce qui ne va pas et de subir le désespoir, regardons à lui notre espérance et apportons l'espoir. Jésus ne nous invite pas seulement à de belles œuvres, il nous invite surtout à nous laisser transformer au point où servir mon prochain n'est plus un effort, mais un automatisme naturel. J'aime beaucoup l'histoire du petit garçon sur une plage. Sur cette plage, il y a des milliers de poissons qui sont échoués sur le rivage. Et ces poissons sont en train de mourir. Le garçon va les ramasser les uns après les autres pour les remettre dans l'eau. Un homme passe par là et lui dit : tu ne vas pas pouvoir sauver tous ces poissons, il y en a trop. Ce que tu fais ne va pas changer grand-chose. En réponse à ce discours pessimiste, le garçon prend un poisson sous les yeux de l'homme, il marche jusqu'à la mer et jette le poisson dans l'eau. Ensuite, il répond : pour celui-là, ça change tout. Au milieu des bruits anxiogènes de ce monde, faisons entendre le son de l'Évangile qui change tout. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Père, merci, parce que l'Évangile change tout. Nous pouvons être effrayés, inquiets, suite à ce que nous pouvons entendre aux informations, ces bruits de guerre notamment. Mais toi, tu viens encore nous rappeler l'Évangile. L'Évangile qui apporte une espérance certaine. L'Évangile qui nous rappelle que ce n'est pas dans ce monde que nous vivons le paradis. Dans ce monde, nous vivons malheureusement la souffrance avec ce monde. Mais tu nous demandes de regarder à toi. Tu nous demandes de compter sur toi. Tu nous demandes de recevoir l'Esprit, ta joie, ta paix, non pas pour nier ce qui se passe, mais pour vivre dans ce monde en portant cet évangile d'espérance. Alors nous voulons vivre auprès de toi, jour après jour. Nous voulons tenir ferme dans l'amour, tenir ferme dans la foi. Aide-nous à persévérer. Au nom de Jésus. Amen.